Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit le fameux dicton populaire. Mais quand il n'y a plus de vie, Marie-Madeleine et l'autre Marie viennent visiter un mort au tombeau. C'est un fait que la mort fait partie de nos vies. Parfois, elle en fait trop partie. Nous nous accommodons alors avec la mort, avec fatalisme, avec résignation. Pourtant, la mort reste inhumaine, que ce soit une mort violente, comme celle par laquelle ont failli passer le jeune Isaac ou les Israélites poursuivis par Pharaon, comme celle de Jésus sur la croix, ou que ce soit une mort naturelle, la mort nous indigne, la mort nous révolte. La résurrection de Jésus que nous fêtons en ce jour, que nous proclamons avec solennité, nous confirme avec force ce que nous pressentions déjà au fond de notre cœur. Il y a de la vie, même dans la mort. Marie-Madeleine et l'autre Marie vont au tombeau. Elles vont au tombeau pour rendre les derniers soins funéraires au corps de Jésus. En effet, Jésus avait été déposé en hâte par Joseph d'Arimathie dans un tombeau juste après sa mort sur la croix. Nous l'avons évoqué hier. Comme le sabbat commençait dès le vendredi soir, l'ensevelissement n'a pu être achevé. C'est un fait qu'en tout lieu et en tout temps, les humains ont toujours tenu à rendre un hommage significatif au corps de leurs défunts. C'est là une des caractéristiques essentielles du genre humain qui les distingue des animaux. Cela dénote que l'être humain ne veut pas se laisser dominer par la mort. En honorant les corps de ses semblables défunts, l'être humain signifie que la mort n'a pas le dernier mot. Pourtant, que de résignation, que de fatalisme bien souvent devant la mort. Lorsque nous perdons un être cher, après le choc, viennent la tristesse, le vide soudain. La colère aussi peut venir, ou le ressentiment. Et en bout de ligne, viennent souvent la résignation, le fatalisme. C'est ainsi, disons-nous, nous n'y pouvons rien. Les disciples et les femmes ont dû passer par de tels sentiments au moment de la mort de Jésus, mort violente qui plus est. Abraham aussi était résigné quand il pensait que Dieu lui demandait véritablement de lui offrir son fils Isaac en sacrifice. Les Israélites, eux, se voyaient déjà massacrés par l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Lorsque des crimes sont commis, et spécialement lorsque ce sont des crimes de guerre qui volent la vie à des milliers, des millions de personnes, la résignation et le fatalisme s'emparent aussi d'un grand nombre. Devant l'escalade de la violence qui engendre des morts innombrables, comme de nos jours en Syrie ou en Centrafrique ou dans tant de pays de notre monde, grande est la tentation de baisser les bras et la tentation des habitants des pays aisés et de même provoquer la mort dès que survient un mal de vivre. Mais voilà, en cette nuit, que retentit une autre voix, et celle de l'ange qui dit aux femmes : Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, je sais que vous cherchez Jésus qui est mort, mais il n'est pas ici, car il est ressuscité. Si donc l'être humain peut être résigné devant la mort, il importe qu'il n'oublie pas de reconnaître que la mort est inhumaine. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, comme le couronnement de toute sa création, il vit que cela était très bon. Il n'était pas question de mort, la mort n'était pas là. La mort est inhumaine. La mort n'est pas voulue par Dieu. Dieu n'a pas fait la mort, dit le livre de la Sagesse. La mort est inhumaine parce qu'elle engendre tristesse, colère, culpabilité, inquiétude. On a beau se raisonner en se disant que les personnes font leur temps sur cette terre, ou bien que les générations doivent se renouveler. La mort d'un être humain, quel qu'il soit et quelles qu'en soient les conditions, a toujours un caractère violent. Qui d'entre nous, en voyant un corps défunt, ne s'est pas dit une fois « Mais cette personne dort, elle va se réveiller ?» La mort donne à l'être humain un pouvoir extraordinaire sur ses semblables, celui de les supprimer, pense-t-il, lorsque leur présence les dérange au plus haut point. Et ainsi, l'être humain a la capacité de trouver toutes sortes de raisons pour tuer ses semblables. C'est bien pour cela que les chefs des prêtres ont voulu faire mettre Jésus à mort. Et s'il arrive à la mort d'être apparemment la bienvenue pour soulager la souffrance de bien des personnes, il n'en demeure pas moins que sa venue effective ne peut jamais constituer un bien. Vous soyez sans crainte, dit l'ange du Seigneur aux femmes. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Il l'avait dit, mais les femmes l'avaient oublié. Les disciples aussi. Les grands prêtres, eux, ne l'avaient pas oublié. Aussi avaient-ils fait mettre des gardes autour du tombeau pour empêcher les disciples de dérober le corps et de prétendre que Jésus serait ressuscité. Autant dire, frères et sœurs, que personne n'attendait la résurrection de Jésus. Personne ne la prenait au sérieux. Voilà donc la question. Comment se fait-il que le retour définitif à la vie d'un homme mort nous étonne? Cela vient bouleverser un ordre établi, un désordre établi plutôt, auquel nous nous sommes par trop accommodés. Cela vient réveiller en nous l'enfant scandalisé de voir ses frères et sœurs en humanité mourir les uns après les autres, scandalisé à la perspective qu'un jour lui aussi verrait sa vie basculer dans le néant. Il y a une part en moi-même qui se révolte devant la résurrection. Comment ceux et celles dont la présence m'importune devraient vivre à jamais, et moi je devrais à jamais me supporter avec toutes mes misères? Devant la résurrection du Christ, nous avons un passage à faire, une Pâque avec à l'intérieur de nous-mêmes. Avec Abraham, qui s'est abandonné à Dieu lorsqu'il lui demandait d'offrir son fils Isaac, nous avons un passage à faire. Avec le peuple d'Israël poursuivi par l'armée de Pharaon, qui s'est lancé dans les eaux de la mer Rouge, ne sachant ce qui lui arriverait, nous avons un passage à faire. Avec le prophète Ézéchiel, en recevant de Dieu un cœur nouveau, un un esprit nouveau, nous avons à nous laisser refaçonner par Dieu. Regardons le visage de Jésus, regardons son corps tel que nous le révèle le linceul de Turin. Ce n'est pas le visage d'un mort, mais d'un vivant endormi, prêt à se réveiller. Dans le corps de Jésus se trouve imprimé le témoignage que nulle humiliation, nulle violence, nulle torture, nulle souffrance, nul péché, nulle mort humaine ne saurait effacer, ne saurait anéantir la force de vie que Dieu a déposée en chacun, en chacune d'entre nous, les humains. Ainsi désormais, toutes nos morts humaines, petites ou grandes, ne sont plus des impasses, mais elles sont des passages. Ainsi nous pouvons marcher sur cette terre sans avoir peur de la mort, sans colère, ni angoisse, ni résignation. Car par sa résurrection, Jésus a une fois pour toutes humanisé nos vies, même dans la mort qui les déshumanisait. Jésus, en vivant pleinement sa mort, nous a révélé qu'il y a de la vie en nous, qu'il y a de la vie même dans nos morts. Il y a de la vie au-delà de toutes nos morts.